Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le gouvernement est soumis ce mercredi au vote de confiance des députés. Le Sénat a approuvé les règles pour l'élection présidentielle au scrutin direct. PSA et Toyota suppriment des emplois en République tchèque. C'est dans le contexte de l'enquête sur l'achat douteux en 2009 par l'État tchèque des avions militaires espagnols Caça que le gouvernement du Premier ministre Petr Nečas va être soumis ce mercredi soir au vote de confiance de la Chambre des députés. Et ce vote a été initié par le Parti social-démocrate en tête de l'opposition qui critique notamment les démarches du ministre des Finances Miroslav Kalousek. Ce dernier aurait fait pression sur le président de la police nationale Petr Lassé dans le cadre de cette affaire. Il s'agit du quatrième vote de confiance depuis la formation de l'actuel gouvernement. Il est fort probable que l'opposition ne rassemble pas la majorité de 101 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. Ce mercredi, le président de la police nationale, Petr Lassé, s'est rendu au château de Prague où il a été reçu par le président de la République, Václav Klaus. Celui-ci a exprimé son soutien au chef de la police dans son effort pour ne pas se laisser influencer dans son travail et notamment dans l'enquête sur l'achat des avions Caça. Le chef de l'État a déclaré que les attaques directes ou indirectes sur la police devait cesser et qu'il était nécessaire de calmer la situation autour de la police, une situation qu'il a qualifiée de grave. Récemment, le Premier ministre Petr Nečas a taclé Petr Lassé en lien avec une lettre que celui-ci a fait parvenir à ses subordonnés dimanche. Dans cette lettre, Petr Lassé avait appelé ses collègues à résister aux pressions politiques lors de leurs enquêtes sur les affaires de corruption. Le Sénat a approuvé les règles pour l'élection présidentielle au scrutin direct. La loi prévoit que les électeurs votent pour leur président de la même façon que pour les sénateurs. Les candidats auront la possibilité de financer leur campagne à hauteur maximale de 50 millions de couronnes et ils auront droit à un temps de parole gratuit à la télévision et à la radio publique. La loi précise également les dates auxquelles le scrutin peut être organisé. Les électeurs pourront voter au plus tôt les 11 et 12 janvier et au plus tard les 1er et 2 février. Les dates précises devront être fixées par le président du Sénat, Milan Štěch, au plus tard 90 jours avant le scrutin. Le président tchèque Václav Klaus se rendra vendredi dans le cadre de son voyage dans la région de Bohême du Sud sur le site de la centrale nucléaire de Temelín. Il s'agit de sa deuxième visite de la centrale depuis 2003. Le président s'intéresse à l'achèvement de la construction de Temelín qui devrait se doter d'ici 2025 de deux nouveaux réacteurs. Le coût de l'investissement est estimé à 20 milliards d'euros. Trois candidats sont en lice pour cette commande. Le français Areva, l'américain Westinghouse est le consortium formé par les sociétés russes Atomstroy Export et Gidropress avec le tchèque Škoda JS. La coentreprise TPCA associant PSA et le japonais Toyota en République tchèque supprime aussi des emplois. Il a annoncé mardi le départ de 345 des 2800 salariés de son usine de Kolíně située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Prague, soit 12% de ses effectifs suite à une baisse des ventes. Cette réduction d'effectifs n'est pas liée au plan de suppression de 8000 postes par PSA en France. TPCA précise qu'il s'agit de départ volontaire. Côté météo, c'est un temps nuageux à couvert qui régnera sur l'ensemble du territoire tchèque jeudi, jour de la fête des Tcheniks. Des averses et des orages pourront se produire notamment à l'est du pays. Les températures maximales oscilleront entre 22 et 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. 20 ans se sont écoulés le 17 juillet depuis la déclaration d'indépendance de la Slovaquie qui allait ouvrir la voie à ce qu'on a appelé le divorce de velours en Tchécoslovaquie. Retour sur un tournant dans l'histoire du pays. Le chercheur tchèque Antonín Holý est décédé lundi. Il est à l'origine de nombreux médicaments qui aident des millions de personnes dans le monde. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, le 17 juillet 1992, la Slovaquie faisait clairement entendre à son voisin tchèque qu'elle souhaitait son indépendance en approuvant la déclaration du Conseil national slovaque sur l'indépendance de la République slovaque. Elle signait de facto la fin de l'État commun tchécoslovaque issu de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les deux pays fonctionnent séparément tout en entretenant des relations privilégiées. Lorsqu'est adoptée le 17 juillet la déclaration sur l'indépendance de la République slovaque à 113 voix sur les 147 députés slovaques présents, le président tchécoslovaque Václav Havel démissionne de son poste, ouvrant la voie à la division de la fédération. Pour l'historien slovaque Vojtěch Čelko, le tournant est à voir dans les élections de juin 1992.
Je pense que c'est le résultat des élections des 5 et 6 juin 1992 qui est crucial. Les partis politiques slovaques qui étaient en faveur de la fédération les ont perdus.
Les questions de la dénomination de l'État et de son symbole avaient déjà suscité des émotions au début des années 90 suite à la chute du régime communiste. Pendant 2 ans, les représentants politiques tchèques et slovaques n'étaient pas parvenus à accorder leur violon sur un projet étatique concret. D'un côté, les Tchèques insistaient sur le principe d'une fédération avec des pouvoirs forts de chaque côté, tandis que les Slovaques, eux, voulaient des compétences élargies pour les deux républiques. La victoire aux élections de juin du parti civique ODS de Václav Klaus côté tchèque et du parti populaire HZDS de Vladimir Mečiar côté slovaque décide de la suite. Les négociations entre les représentants des deux partis voient s'opposer deux points de vue irréconciliables. Le 17 juillet marque donc le début de la fin d'un projet d'État binational né sur les ruines de l'Empire austro-hongrois en 1918. Vojtěch Čelko.
Quand la République tchécoslovaque est née en 1918, on parlait d'une nation tchécoslovaque unique. Et pourtant, il s'agissait de deux cultures politiques bien différentes. Les Tchèques avaient besoin de la Slovaquie car ils avaient besoin d'un corridor à l'est, au milieu d'un océan germanique. Mais après 1945, ce n'était plus aussi intéressant pour eux, après l'expulsion des Allemands des Sudètes. Côté slovaque, la création de la Tchécoslovaquie a été d'une certaine façon salutaire, car la magyarisation de la Slovaquie était beaucoup trop forte.
Mais plus de 70 ans plus tard, toutes ces raisons n'avaient plus lieu d'être et certaines voix en Slovaquie se faisaient entendre pour que les Slovaques ne soient plus la deuxième roue du carrosse tchécoslovaque, ce que d'aucuns ressentaient parfois. La division de la Tchécoslovaquie, heureusement pacifique, sera entérinée au 1er janvier 1993. Elle a touché de nombreuses familles, souvent binationales, qui ont dès lors dû choisir leur nationalité. 20 ans après, certains, notamment côté tchèque, moins favorables dès le départ à la scission, sont nostalgiques de l'époque d'un État unique. Pourtant, la plupart s'accordent pour dire que les relations entre les deux pays n'ont jamais été aussi bonnes, comme le souligne Milan Kniazko, ancien vice-premier ministre du gouvernement slovaque de Vladimir Mečiar.
Les relations mutuelles sont excellentes. Elles sont meilleures qu'elles ne l'ont jamais été, parce qu'il n'y a plus de raison de conflit comme à l'époque où elles se dégradaient. Ça, c'est important. Tout ce qu'il y avait de bon entre nous auparavant est resté et a plutôt tendance à s'améliorer davantage.
Et en effet, que demander de plus alors que l'on sait qu'à l'époque, au début des années 90, plus au sud de l'Europe, la Yougoslavie post-communiste se déchirait dans un bain de sang. Tchèques et Slovaques ont, eux, choisi ce que l'on a appelé plus tard un divorce de velours, en référence à la révolution de velours de 1989. Le chimiste mondialement reconnu Antonín Hoxha est mort ce lundi alors qu'il allait bientôt fêter ses 76 ans. Ses multiples travaux ont permis et permettent encore de soigner des millions de patients à travers le monde. Il a découvert les antiviraux et est l'inventeur de nombreux vaccins et médicaments révolutionnaires, parfois controversés, tels que le Truvada, un traitement préventif contre le sida dont l'Agence américaine des médicaments, la FDA, vient d'autoriser la mise en vente. La communauté scientifique rend hommage à un homme qui adorait son laboratoire et dont beaucoup regrettent qu'il n'ait pas été suffisamment honoré de son vivant. Pierre Maignan.
C'est l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie des sciences qui a annoncé la triste nouvelle. Le chimiste de renommée internationale Antonín Hoxha est décédé à l'âge de 75 ans. C'est au sein de cet institut qu'il avait commencé à travailler au début des années 1960, après avoir étudié la chimie à la faculté de mathématiques et de physique de l'Université Charles. C'est au sein de cet institut encore qu'il travaillera toute sa vie. En 1976, il s'associe avec le Belge Éric de Clercq, spécialiste en virologie, et sa carrière prend un nouveau tournant. Ils découvrent ensemble les antiviraux et leur collaboration donne naissance à de nombreux médicaments, permettant de lutter, entre autres, contre les virus du sida, de la variole, de l'herpès zoster, qui est responsable du zona, ou encore de l'hépatite B. Des médicaments qui sont toujours d'actualité, puisque ces jours-ci, le premier médicament préventif contre le sida, le Truvada, vient d'être autorisé sur le marché américain. Et c'est Antonin Holly qui en est l'un des développeurs. Cette substance est cependant relativement controversée, mais témoigne de la vitalité des applications liées aux recherches du scientifique tchèque. Pavel Hosba a travaillé aux côtés d'Antonin Holly pendant plus d'une dizaine d'années et il peut en témoigner.
Ce traitement préventif est tout simplement une découverte phénoménale d'importance mondiale que personne n'avait réussi avant lui. Environ 1 million de personnes prennent quotidiennement les antiviraux d'Antonin Holly sans lequel ils mourraient.
Aussi, ils sont nombreux à penser qu'Antonin Holly aurait mérité un prix Nobel. Mais pour Pavel Hosba, il faut relativiser.
Il a été souvent nominé pour de nombreux prix, et notamment pour le prix Nobel. Il ne l'a jamais reçu, et il ne le recevra plus, car on ne donne pas cette récompense à titre posthume. Mais en discutant avec mes collègues américains, ceux-ci m'ont plusieurs fois affirmé que si professeur Holly avait été à Harvard, Cambridge ou Oxford, il aurait déjà reçu son prix Nobel.
Antonin Holly a tout de même reçu une quantité non négligeable de récompenses en tout genre. Cela l'obligeait à se rendre à des cérémonies et à porter une cravate, deux choses qu'il n'appréciait guère, selon son collègue de l'Institut de chimie organique et de biochimie, Václav Pačes.
Il faut dire qu'il adorait son laboratoire. C'est pour cela qu'il n'était pas très à l'aise en costume cravate et qu'il préférait clairement porter une blouse blanche ou un pull étiré.
C'est l'image d'un homme simple que laisse Antonin Holly, passionné par son travail qui nécessitait selon lui une infinie patience et une bonne dose d'intuition. Il considérait que la meilleure façon de parvenir à ses fins était l'expérience et la méthode essai-erreur, reprenant peut-être indirectement la devise des Shaddocks. Plus ça rate et plus on a de chances que ça réussisse. Nous vous proposerons prochainement une rediffusion d'un reportage sur Antonin Holly.
La semaine dernière à Prague, 14 martyrs franciscains étaient exhumés et revoyés ainsi le jour après 4 siècles de repos. En mai dernier, le pape Benoît XVI a en effet approuvé par décret la béatification de ces hommes assassinés au début du XVIIe siècle dans le monastère de Notre-Dame-des-Neiges au sein duquel les franciscains résidaient et résident encore. Nous vous proposons de revenir sur les traces de ces moines venus s'implanter à Prague pour y prêcher leur foi et tenter de reconquérir les nombreux fidèles séduits par la réforme protestante. À l'époque, la ville est le centre du Saint-Empire romain germanique qui va bientôt s'entre-déchirer et être dévasté par la guerre de 30 ans, dont la deuxième défenestration de Prague constitue un événement déclencheur. C'est dans une période marquée par les tensions religieuses entre communautés catholiques et protestantes que les moines franciscains tentent de se développer à Prague. 14 d'entre eux y seront assassinés. On retrouve tout de suite pour cette rubrique historique Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
La communauté franciscaine de Prague est toujours vivante et organise la vie religieuse de sa paroisse au sein du monastère où elle réside, Notre-Dame-des-Neiges. Celle-ci se compose d'une remarquable église de style gothique, dont la voûte culmine à près de 34 mètres de hauteur, ce qui en fait la plus haute des 83 églises que compte la ville. Située sur la place Jungmann, en plein cœur de Prague, la communauté a pignon sur rue. Cela fait déjà 4 siècles que ces moines, fidèles à l'ordre créé par François d'Assise, occupent la capitale de la Bohême, puisqu'ils s'y installent au tout début du XVIIe siècle. Peter Regalat Benes est aujourd'hui membre de cette communauté. Il nous conte l'arrivée des franciscains à Prague à une époque où cet ordre tente de se répandre dans le cadre de la contre-réforme. Celle-ci, initiée près d'un demi-siècle plus tôt par l'Église catholique, vise à contrer la progression de la foi protestante en Europe et notamment dans les pays tchèques.
Nous sommes au temps de l'empereur Rodolphe II et Prague était alors le centre du Saint-Empire romain germanique. Il était donc logique que les ordres monastiques les plus importants tentent de s'y implanter. C'est pour cela qu'Enrico Alfieri, le ministre général de l'ordre franciscain, se rend à Prague en 1603. Et l'endroit lui a plu, ou il faudrait plutôt dire que le chantier, car cette église se résumait alors à trois murs périphériques et n'avait ni toit ni plafond. Cela lui a rappelé le Colisée à Rome. Il a alors été demandé à Rodolphe II d'accorder la permission franciscain de s'y installer et d'entamer la restauration du lieu.
Et la bâtisse a alors bien besoin d'une réfection. La construction de Notre-Dame-des-Neiges avait été décidée par Charles IV en 1347. Selon les plans de l'époque, cela devait être un ensemble monumental long de plus de 100 mètres et dont la nef atteindrait 40 mètres. Finalement, seul le presbytère, terminé en 1379, et le cloître sont construits. La construction de la nef et de la tour commence plus tard, au début du XVe siècle, mais elle est interrompue par les guerres hussites, qui opposent catholiques et partisans de Jan Hus. Ce dernier prône un retour à une conception plus sobre et simple de la pratique religieuse. Et c'est à l'église de Notre-Dame-des-Neiges que prêche un autre prédicateur hussite, Jan Zielewski. Le 30 juillet 1419, après une messe, il prend la tête d'une procession de fidèles. Ils prennent la direction de l'hôtel de ville et veulent y réclamer la libération de prisonniers hussites. Une pierre est alors lancée d'une des fenêtres du bâtiment vers Jan Zielewski. La foule menée par Jan Žižka est alors prise de fureur, pénètre la mairie et 13 membres du conseil municipal sont défenestrés. C'est la première défenestration de Prague. Après ces événements, Prague perd temporairement son influence et le bâtiment tombe peu à peu en ruine. Il faut donc attendre 1603 et l'arrivée des frères mineurs, l'autre nom des franciscains, pour que Notre-Dame-des-Neiges reprenne donc des couleurs. Cependant, pour Jakub František Sadilek, il ne faut pas se contenter de cette date, puisque des franciscains avaient déjà tenté de s'installer à Prague entre 1461 et 1483. Pour lui, l'implantation des franciscains au cœur du Saint-Empire romain germanique est intéressante à plus d'un titre. Il nous explique pourquoi.
Je dirais que même si l'histoire a retenu que la communauté a été fondée cette année-là, il y avait déjà eu un certain nombre de tentatives dans le passé. Je crois qu'il ne faut pas seulement envisager cela comme un projet humain, mais également peut-être comme un dessein du Seigneur. L'aspect intéressant, à l'heure de la multiplication des rencontres internationales, de la globalisation, c'est que ce sont tous des moines de nationalités différentes qui vivent au sein d'une seule communauté avec un mode de vie très simple. Par ailleurs, ils vivent avec la foi dans la voie qu'ils ont choisie. Personnellement, et je ne parle qu'en mon nom, la communauté à son origine est pour moi un grand témoignage de foi et une vie ordinaire. Un témoignage d'une vie en société en bonne intelligence entre des personnes de sexe, d'âge et de nationalité différents.
Les valeurs portées à travers la vie monastique n'ont pas changé à travers les siècles. Et cette foi dans un mode de vie humble et voué à la prédication sont les piliers de la pratique religieuse des moines de l'ordre franciscain, selon Jakub František Sadilek. Cet ordre, né en Italie au XIIIe siècle sous l'impulsion de François d'Assise, qui, suite à une révélation, désire passer sa vie à aimer la création, prenant exemple sur les démunis de son époque, il s'habille avec un manteau ample de laine grise à capuchon et maintenu par une ceinture de cordes qui deviendra l'habit des moines franciscains. Il passera sa vie sur les routes à vivre pauvrement et à répandre la parole des évangiles. La communauté qui l'inspire se développe rapidement sous la protection des papes et compte bientôt près d'un millier de monastères dans toute l'Europe. Mais revenons à Prague au début du XVIIe siècle. À cette époque, Prague est redevenue un centre culturel, scientifique et politique important. Comme le note Jakub František Sadilek, les membres de la communauté qui arrivent alors dans la ville viennent d'horizons très différents. Essentiellement d'Europe occidentale, de la péninsule italienne, d'Espagne ou des pays germaniques. Et ils ne sont pas forcément les bienvenus. Ce sont des étrangers catholiques dans une ville où les protestants sont majoritaires. Or les Habsbourg, maîtres du Saint-Empire romain germanique, aimerait que Prague redevienne dans le giron catholique de la papauté. Ainsi, la ville doit se défendre contre des raids intempestifs qui mettent à mal la sécurité de ses habitants. La tension qui y règne aboutit en février 1611 au massacre de 14 de ses moines franciscains qui peinent à se faire accepter et qu'on soupçonne d'entente avec les agresseurs. Peter Regalat Beneš nous raconte les circonstances de ces meurtres.
A právě převážně protestantská Praha.
La communauté protestante de la ville avait le sentiment d'être menacée, un sentiment renforcé par l'arrivée importante de nouveaux habitants venus d'ailleurs. Aussi, quand les troupes de Léopold V de Habsbourg, l'archevêque de Passau, alors en conflit avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, occupent Malastrana et menacent de traverser la Vltava, le désordre et la fureur s'emparent des habitants de la ville. La population locale et ceux qui étaient venus se réfugier ici et qui pour la plupart étaient protestants, donc ont eu le sentiment que les monastères catholiques étaient de mèche avec les assaillants, avec ces hommes de Passau. Dans le même temps, certains ont pu profiter de la situation et ils ont envahi ces monastères, les ont pillés et les ont même parfois assassinés comme ici. Ils ont également tué au couvent des Augustins et peut-être également dans celui de Sainte Agnès.
Vraždilo se ještě na Karlově, kláštře Augustinianů, možná u svaté Anešky.
401 ans après ce massacre, le pape Benoît XVI a finalement donné un avis favorable à la demande de béatification de ces 14 martyrs. Selon Peter Regalat Beneš, c'est leur décision de rester au monastère, leur attitude exemplaire et leur courage face à la mort qui justifient la décision papale. Le processus de béatification a été entamé il y a plus de 3 siècles, mais le moine précise qu'il s'agit presque toujours d'un mécanisme très long.
Les efforts en vue de faire béatifier les 14 martyrs débutent tôt puisqu'on en a des traces dès 1624. Cette volonté était présente ici dès le premier jour. Mais les démarches officielles datent de 1677. Les circonstances ont fait que certains problèmes financiers ont une première fois arrêté le processus. Mais on supposait que tout se passerait bien et qu'on réitérerait la demande rapidement.
Ainsi, la communauté survit à l'hécatombe de 1611 et va même ensuite prospérer. 7 ans plus tard, une délégation de protestants, mécontents de la fermeture de 2 temples, se rend au château de Prague. Celui-ci est alors habité par Matthias Ier, qui a succédé à son frère Rodolphe II, et alors roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain germanique. Suite à une dispute, des membres de la procession protestante jettent 2 représentants du pouvoir habsbourgeois par les fenêtres, lesquels atterrissent sur un tas de fumier. C'est la 2e défenestration de Prague, événement qui enclenche le processus qui mènera à la guerre de 30 ans. Les Habsbourgeois veulent conserver et renforcer leur pouvoir sur les pays allemands, le tout sur fond de guerre de religion. Après la bataille de la Montagne Blanche, en novembre 1620, les protestants de Bohême sont vaincus et la liberté de culte interdite à Prague. Seul le catholicisme y est autorisé et les franciscains peuvent alors se développer dans une ville qui perd pour 3 siècles son statut de capitale.
Il est intéressant de voir que dans un certain sens, le meurtre des franciscains marque réellement le début de leur implantation à Prague. Quelques années auparavant, on va dire 10 ans, il y avait 17 frères franciscains dans toute la province. Certains avaient été décimés par la peste. Il y a eu ensuite cette invitation faite à de nouveaux frères d'autres pays afin qu'ils viennent remplir les rangs franciscains. Mais un siècle plus tard, on comptait probablement près de 1000 frères en Bohême et en Moravie. Donc il y a eu comme une sorte de rupture.
Bien plus tard, la communauté connaîtra de nouvelles épreuves avec l'avènement du régime communiste. Le monastère est réquisitionné de 1949 à 1950. Les frères en sont expulsés et certains ne reviendront qu'après la chute du dit régime en 1989. Si la vie monastique a repris, les messes sont régulières et les fidèles présents, les moines franciscains estiment toujours que l'Église catholique est persécutée en République tchèque. La question de la restitution des biens aux églises et celle de la relation de ces cultes avec l'État y sont sans doute pour beaucoup.
« Voilà, c'est avec cette rubrique historique que s'achève cette émission en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous les retrouvez sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, en podcast sous forme d'articles, mais également en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.